Chapitre 13. Le bruit de la rivière était devenu très puissant, remplissant de son tonnerre jusqu'à leurs rêves. Le pistolero, plus par caprice qu'autre chose, laissa le garçon manœuvrer la drésine pendant qu'il tirait une partie de ses mauvaises flèches, qui traînaient derrière elle de fins rubans de fil blanc dans l'obscurité. L'arc était très mauvais, lui aussi, dans un état de conservation à peine croyable, mais il se bandait et visait horriblement, et le pistolero savait que rien ne pourrait améliorer ça. Même en le recordant, il ne pourrait rien pour le bois fatigué. Les flèches ne portaient pas loin dans le noir, mais la dernière qu'il tira revint humide et glissante. Le pistolero se contenta de hausser les épaules lorsque le garçon lui demanda à quelle distance il se trouvait de l'eau. Mais il se dit intérieurement que la flèche n'avait pas pu aller au-delà de 100 mètres, et encore, dans le meilleur des cas. Et la rivière qui tonnait de plus en plus fort, de plus en plus près. Pendant la troisième période de veille, après qu'ils eurent quitté la gare, une lueur spectrale se mit à nouveau à rayonner. Ils avaient pénétré dans un long tunnel creusé dans une étrange roche phosphorescente, et les murs humides scintillaient et étincelaient de milliers d'étoiles miniatures. Le garçon les appelait des fossiles. Il voyait les choses comme dans une sorte d'irréalité bizarre, comme dans une maison hantée. Le fracas brutal de la rivière était canalisé jusqu'à eux par la roche qui les emprisonnait et qui en amplifiait naturellement la puissance. Pourtant, le son demeurait étrangement constant, même lorsqu'ils approchèrent du carrefour que le pistolero attendait avec certitude, car les murs s'élargissaient, reculaient. L'angle qu'il formait vers le haut se faisait plus prononcé. Les rails pénétrèrent dans la lumière nouvelle. Les touffes de fossiles rappelaient au pistolero ces tubes captifs de gaz des marais qu'on vendait parfois dans la fête de la moisson. Au garçon, elles rappelaient des banderoles de néon sans fin. Mais dans cette luminescence, ils voyaient tous deux que la roche qui les avait si longtemps emprisonnés prenait fin devant eux en deux péninsules jumelles au bord déchiquetées, tendues vers un golfe de ténèbres, l'abîme au-dessus de la rivière. Les rails se poursuivaient, passant au-dessus de ce gouffre insondable, porté par un tréteau remontant à Mathusalem. Et au-delà, à une distance qui paraissait à peine croyable, perçait une tête d'épingle lumineuse, ni phosphorescente ni fluorescente, la lumière du jour, dure et vraie, aussi minuscule qu'un trou d'aiguille dans une étoffe sombre, et pourtant lourde d'un sens effroyable. « Arrêtez-vous, » dit le garçon, « arrêtez-vous une minute, s'il vous plaît. » Sans poser de questions, le pistolero laissa la drésine ralentir d'elle-même. La rivière vrombissait, ses grondements réguliers et retentissants venant d'en dessous et de devant eux. La luminosité artificielle de la roche humide lui fut soudain odieuse. Pour la première fois, il sentit une main oppressante le toucher, et la pulsion de s'échapper, de se délivrer de cet enterrement vivant, se fit poignante et impossible à museler.
« On va continuer, » dit le garçon. « Est-ce que c'est ce qu'il veut ? Il veut qu'on pousse la drésine au-dessus de ça et qu'on tombe ?»
Le pistolero savait bien que non. Pourtant, il répondit « Je ne sais pas ce qu'il veut. » Ils descendirent et s'approchèrent précautionneusement du bord du gouffre. Sous leurs pieds, la roche continuait de monter, jusqu'au moment où le sol se détacha soudain des rails et se déroba sous eux. La voie se poursuivait seule, trouant l'obscurité. Le pistolero se mit à genoux et regarda en bas, scrutant les ténèbres. Il distinguait vaguement un réseau complexe, incroyable, de poutrelles et d'étais métalliques qui disparaissaient vers le tumulte de la rivière et qui se rejoignaient en une arche gracieuse, soutenant la voie ferrée au-dessus du vide. Mentalement, il imaginait sur l'acier l'œuvre du temps et de l'eau, ce tandem fatal. Quelle résistance avait encore la structure? Un peu? Presque pas? Pas du tout. Soudain, il revit la figure de la momie. Il revit comment la chair solide en apparence avait été réduite en poussière par une pichenette de son doigt. On va marcher maintenant, dit le pistolero. Il s'attendait presque à ce que le garçon rechigne de nouveau, mais c'est lui qui précéda le pistolero sur les rails, entamant sa traversée sur les lattes de métal soudées d'un pas ferme et assuré. Le pistolero suivit Jake au-dessus de l'abîme, prêt à le rattraper s'il trébuchait. Le pistolero sentit une fine couche de sueur recouvrir sa peau. Le tréteau était pourri, complètement pourri. Il le sentait battre sous ses pieds au rythme des assauts fulgurants de la rivière en contrebas, trembler sur ses câbles invisibles. « On est des acrobates, » pensa-t-il. « Regarde, mère, sans filet, je vole !» Il s'agenouilla une fois pour examiner les traverses sur lesquelles ils avançaient. Elles étaient piquetées de rouille. Il en sentait l'origine sur son visage, l'air frais, l'agent de la décomposition. Il devait être très proche de la surface à présent. Et un coup de poing sur le métal fit trembler dangereusement la structure. À un moment, il entendit un grognement menaçant sous ses pieds et il sentit son appui sur le point de céder. Mais il avait déjà changé de position. Le garçon, plus léger de 50 kilos au moins, était bien sûr plus en sécurité, du moins jusqu'à ce que les choses empirent progressivement. Derrière eux, la Drésine s'était fondue dans l'obscurité ambiante. Le ponton de pierre sur la gauche se prolongeait d'une trentaine de mètres. Il se prolongeait plus loin que celui situé à leur droite, mais ils étaient déjà loin devant, seuls au-dessus du vide. Au début, la petite tête d'épingle lumineuse parut se jouer d'eux et ne pas se rapprocher, voire s'éloigner à la vitesse exacte à laquelle ils progressaient vers elle. Voilà qui aurait fait un beau tour de magie, en effet. Mais le pistolero comprit peu à peu qu'elle grossissait, que ses contours se précisaient. Ils étaient toujours au-dessous d'elle, mais les rails montaient à sa rencontre. Le garçon émit un grognement de surprise et fit un brusque écart sur le côté, les bras décrivant de grands moulinets au ralenti. Il sembla tituber au bord pendant une éternité avant de reprendre la marche. « J'ai bien failli y rester, » dit doucement le garçon, sans aucune émotion. « Il y a un trou. Faites un grand pas si vous ne voulez pas décrocher un aller simple vers le fond. » Jacques a dit, faites un pas de géant. C'était un jeu que le pistolero connaissait sous le nom de Meradi. Il se rappelait bien les parties avec Cuthbert, Jamie et Alain, mais il ne dit rien et se contenta d'enjamber le trou. Faites demi-tour, dit le garçon sans sourire. Vous avez oublié de dire Jacques a dit. J'implore ton pardon, mais je ne pense pas. La traverse sur laquelle le garçon avait posé le pied venait de céder. Et elle plongea paresseusement, se balançant au bout d'un rivet rouillé. Plus haut, toujours plus haut, leur marche prenait des allures de cauchemar qui duraient et qui leur paraissaient bien plus longs qu'ils n'étaient en réalité. L'air lui-même semblait s'épaissir, prendre la consistance du caramel mou, et le pistolero avait l'impression de devoir nager et non marcher. Son esprit essayait encore et encore de se concentrer, de prendre en considération de manière absurde l'espace monstrueux qui séparait ce tréteau de la rivière qui grondait en bas. Son cerveau le visualisait avec un raffinement de détails impressionnant, ainsi que ce qui pourrait se passer. Le hurlement du métal qui se tord et qui cède, le vacillement de son propre corps sur le côté, la tentative désespérée de saisir une prise inexistante, le bruit de ferraille des talons de ses bottes raclant un petit coup l'acier trompeur et pourri, puis la chute, en tourbillon encore et encore, le jet chaud de son entrejambe quand la vessie lâcherait, le souffle du vent sur son visage qui ferait se dresser ses cheveux en une caricature de terreur qui lui retournerait les paupières, l'eau noire qui bondirait à sa rencontre plus vite, couvrant jusqu'à ses cris. Le métal hurla sous lui, et il recula sans se presser, faisant basculer son corps, et en cet instant crucial ne songeant pas à la chute, ni combien ils avaient avancé, ni à la distance qu'il leur restait à parcourir. Ne songeant pas au fait que le garçon n'était qu'un objet secondaire, ou que son honneur à lui était finalement sur le point de se monnayer. Quel soulagement ce serait, une fois l'affaire conclue.
Trois rivets disparus. Fit froidement le garçon. « Je vais sauter. Là. Ici. Geronimo !»
Le pistolero vit sa silhouette se découper un instant sur la lumière du jour, tel un blason, une aigle éployée, maladroite et courbée, les bras tendus pour se faire croire que si tout le reste devait échouer, il restait la possibilité de voler. Il atterrit, et sous son poids, l'édifice se mit à trembler en tous sens. Sous eux, le métal protesta, et quelque chose tomba loin en dessous. Il y eut un bruit de choc, puis un plouf.
« Ça va ? Tu es passé ?»«
Oui, là !»
répondit le garçon.
« Mais c'est vraiment pourri ! Comme les idées de certaines personnes, peut-être ? Je ne pense pas que ça vous supportera très longtemps. Moi, oui, mais pas vous ! Faites demi-tour ! Faites demi-tour maintenant ! Fichez-moi la paix !»
Il parlait d'une voix froide, mais où l'hystérie était sous-jacente, où elle battait comme son cœur battait lorsqu'il avait sauté sur la drésine et que Roland l'avait rattrapé au vol. Le pistolero sauta par-dessus le trou. Un grand pas fit l'affaire, un pas de géant. Mère a dit « Sautez ». Le garçon tremblait de tous ses membres.
« Faites demi-tour. Je veux pas que vous me tuiez.
Pour l'amour de l'homme Jésus, avance !» fit le pistolero d'un ton brutal. « Ce qui est sûr, c'est que tout va s'écrouler si on reste à pas l'abri comme ça. » À présent, le garçon marchait en titubant, les mains tremblantes tendues devant lui, les doigts écartés. Ils poursuivirent leur ascension. Oui, c'était beaucoup plus pourri. Les trous étaient de plus en plus fréquents. Un rivet manquant, deux, voire trois. Et le pistolero s'attendait à tout instant à trouver le grand vide entre les rails qui les obligerait ou bien à faire demi-tour, ou bien à marcher sur les rails même en équilibre précaire au-dessus de l'abîme. Il gardait les yeux rivés à la lumière du jour. La lueur avait pris de la couleur, du bleu. Et à mesure qu'ils approchaient, elle se faisait plus douce, faisant pâlir l'éclat des fossiles. Encore 100, 200 mètres ? Impossible à dire. Il marchait, et il baissait les yeux sur ses pieds, avançant de traverse en traverse. Lorsqu'il releva la tête, la lueur devant eux avait pris la forme d'un trou, et il ne s'agissait plus de lumière, mais d'une sortie. Ils y étaient presque. Plus que 50 mètres, pas plus. Une centaine de petits pas, c'était faisable. Peut-être aurait-il l'homme en noir. Peut-être que, en pleine lumière, les fleurs du mal de son esprit se flétriraient et que tout deviendrait possible. La lumière du soleil s'obscurcit soudain. Il leva la tête, écarquillant les yeux comme une taupe dans son trou, et il vit une silhouette qui obstruait la lumière, qui l'engloutissait, ne laissant passer autour de ses épaules et dans la fourche de l'entrejambe que des fentes d'un bleu moqueur. « Salut les garçons !» L'écho de la voix de l'homme en noir leur parvint, amplifié par cette gorge de pierre naturelle, sa bonne humeur sarcastique lui conférant des accents puissants. À l'aveuglette, le pistolero chercha de la main la mâchoire, mais elle avait disparu, perdue sans doute, épuisée. Il éclata de rire au-dessus d'eux et le son se propagea partout, se répercutant comme une vague remplissant une grotte. Le garçon poussa un cri et vacilla, ses bras battant l'air en moulinets frénétiques dans l'air rare. Du métal se déchira et se décolla au-dessus d'eux. Les rails penchaient en un lent balancement, comme en rêve. Le garçon plongea, et une main s'envola comme une mouette dans le noir, haut, plus haut, puis il se retrouva suspendu au-dessus de l'abîme. Il se balança, là, ses yeux sombres tendus vers le pistolero dans une prise de conscience finale, aveugle et éperdue. « Aidez-moi !» Un mugissement. Un vacarme. « Fini de jouer. Viens maintenant, pistolero, ou jamais tu ne m'attraperas. » Carte sur table. Toutes les cartes, sauf une. Le garçon se balançait carte de tarot vivante, le pendu, le marin phénicien, innocent, perdu, juste au-dessus de la vague d'une mer sombre comme le Styx. Alors attends. Attends une minute. Je m'en vais. Il parle si fort, difficile de se concentrer.
Aidez-moi! Aidez-moi, Roland!
Le tréteau se tordait de plus en plus, hurlant, se détachant de lui-même, cédant. Alors, je dois te quitter. Non, tu ne pars pas. Les jambes du pistolero se détendirent en un bond soudain, brisant la paralysie qui s'était emparée de lui. Il fit un vrai pas de géant au-dessus du garçon suspendu, plongea et atterrit dans un dérapage vers cette lumière qui lui offrait la tour, figée dans sa mémoire en une noire nature morte. Dans le silence, soudain. La silhouette avait disparu, jusqu'au battement de son cœur avait disparu avec le tréteau, qui s'enfonçait toujours, amorçant sa danse finale vers les profondeurs, se détachant. Sa main trouva le bord rocheux et éclairé de la damnation. Et derrière lui, dans ce silence atroce, il entendit la voix du garçon.
« Allez-vous-en ! Il existe d'autres mondes que ceux-ci »
C'est alors que le tréteau se détacha de tout son poids, et tandis que le pistolero se hissait vers la lumière et la brise et la réalité d'un nouveau cas, il tourna la tête vers l'arrière, s'évertuant dans sa torture d'être Janus l'espace d'une seconde, mais il n'y avait rien, rien que le silence de l'effondrement, car le garçon ne poussa pas un cri dans sa chute. Puis Roland se releva, se traîna vers l'escarpement rocheux qui donnait sur une plaine herbeuse vers laquelle l'homme en noir se tenait debout, jambes écartées et bras croisés. Le pistolero vacillait sur ses jambes, blanc comme la mort, les yeux énormes qui nageaient sous son front, sa chemise maculée de la poussière blanche qu'il avait récoltée en rampant dans un dernier effort. Il lui apparut soudain qu'il subirait sans doute d'autres dégradations de l'esprit, plus loin sur la route, des dégradations à côté desquelles celle-ci lui paraîtrait infinitésimale, et pourtant, il voulait la fuir, le long des couloirs, à travers des villes, de lit en lit. Il allait fuir le visage du garçon, essayer de l'enfouir dans le sexe et dans la tuerie, pour finalement pénétrer dans une dernière pièce, et le voir en train de le fixer au-dessus de la flamme d'une chandelle. Il était devenu le garçon. Le garçon était devenu lui. Il devenait un loup-garou, et il s'était engendré lui-même. Dans ses rêves les plus profonds, il deviendrait le garçon, et il parlerait son étrange langage de la ville. C'est la mort. C'est ça. C'est ça. Il descendit lentement la colline rocheuse d'une démarche vacillante vers l'homme en noir qui l'attendait. Là, le soleil de la raison avait anéanti les rails, comme s'il n'avait jamais existé. L'homme en noir repoussa sa capuche du dos de ses deux mains en riant.
« Alors » cria-t-il. « Pas la fin, mais la fin du commencement, hein ? Tu progresses, pistolero ? Oh, comme je t'admire !»
Le pistolero dégaina à une vitesse aveuglante et tira 12 fois. Les éclairs des coups de feu firent pâlir le soleil même. Et l'écho sourd des détonations rebondit sur les escarpements rocheux derrière eux.
« Voyez-vous ça ?» fit l'homme en noir en riant. « Oh, voyez-vous ça ? On fait de la grande magie ensemble, toi et moi. Tu ne me tues pas plus que tu ne te tues toi-même ?»
Il s'éloigna à reculons, face au pistolero, lui souriant de toutes ses dents et lui faisant signe.
« Viens !» Viens, viens, Jacques a dit viens.
Le pistolero le suivit dans ses bottes rompues jusqu'au lieu de palabre.